Votre grand journal du soir sur Europe 1, Mathieu Béliard.
Je vous présente mes invités à 19h22, notre débat, notre conversation plutôt ce soir. Pourquoi le Japon fascine-t-il autant l'Occident ? Nous sommes avec Philippe Faure, ancien ambassadeur de France au Japon. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous ce soir. Jean-François Sabouret, sociologue, 24 ans de vie au Japon. Jean-François Sabouret, merci d'être avec nous sur Europe 1. Et Nicolas Barré, que vous entendez d'ordinaire, ne vous inquiétez pas, hein, il n'est pas 7h15 du matin, tout va bien. Directeur de la rédaction des Échos, que vous retrouvez tous les matins à 7h15 pour Europe 1, sur Europe 1 pour l'édito Échos. 6 ans correspondant de presse au Japon, à Tokyo.
6 ans exactement.
6 ans à Tokyo. Benjamin Muller est avec nous.
Bonsoir
aussi.
Mathieu.
Ça va Benjamin ?
J'ai encore jamais mis les pieds.
Bon, mais ça viendra peut-être.
Pour les Jeux Olympiques en prochain, absolument.
C'est vrai ?
J'espère bien, c'est un peu cher les billets d'avion, j'ai regardé si ça intéresse tout le monde.
Pas donné. Comme chaque jour, Benjamin, on voit avec vous comment les médias ont traité un sujet de l'actualité. Aujourd'hui, rien à voir avec le Japon, on va parler du périphérique parisien.
Oui, désolé pour nos auditeurs qui habitent un peu loin de Paris et qui se moquent complètement de ce sujet. Profitez-en et dites-vous bien que nous, les blaireaux de Parisiens, on y passe notre vie bloqués dans ce périph', donc forcément ça nous intéresse un petit peu. L'actu, c'est donc ce rapport qui préconise d'y limiter la vitesse à 50 km/h.
On est quand même un drôle de pays, il faut le reconnaître. Au moment où le gouvernement dit... On va peut-être revenir sur cette mesure des 80 km/h. Eh bien, à Paris, on étudie le fait de baisser la vitesse à 50 km/h.
Effectivement, ça risque de faire des vagues, cette histoire. Sur BFM, un des rapporteurs du projet s'explique.
En passant de 70 à 50, on imagine que on va améliorer là aussi le flux de telle façon à ce qu'il y ait une circulation un peu plus apaisée, on va dire un peu plus cool, quoi. Voilà.
Oui, une circulation cool sur le périph', des petits oiseaux qui chantent, tout ça. Il y a encore un peu de boulot, mais pourquoi pas. Et évidemment, les Parisiens, comme ici sur Europe 1, ils sont moyen contents.
Beaucoup de galères en perspective, vu le bazar que c'est un peu déjà sur le périphérique. Je pense que ça risque de dégrader encore plus la situation.
Et alors, pire que l'automobiliste parisien pas content, le chauffeur de taxi parisien pas content.
Je vais perdre un temps monstrueux si on perd encore 20 km supplémentaires. Franchement, ça devient lourd, ça devient pesant.
Pesant, mais non, c'est l'occasion de profiter de la vue qui est si belle là-bas, porte de Bagnolet et tout ça. Sur RTL, le politologue Roland Cayrol propose de prendre un peu de hauteur.
Écoutez, moi je crois que dans ces cas-là, il ne faut pas se demander soi-même si ça vous arrange ou si ça ne vous arrange pas.
Et oui, il faut penser intérêt collectif, santé publique, tout ça. Mais bon, dites ça aux gars qui nous écoutent en ce moment bloqués porte de Clignancourt, pour le coup, bof bof. Alors maintenant, ok, on imagine, on les met en place, ces 50 km/h, on fait comment ?
Qu'on nous explique exactement comment, parce que là, quand on lit ce rapport, tu te dis, mon Dieu, quel bordel ça va être.
Et voilà, là, on est dans le vrai débat, le seul qui compte. Et alors, à ceux qui répondent, vous n'avez qu'à prendre le métro, cette chroniqueuse d'RMC rappelle que c'est déjà assez saturé.
Ce matin, je suis venue en métro, j'ai pris en photo l'affiche. Il y a une affiche pour un site de libertinage. Ils ont mis en gros, chez nous, c'est cool d'être serrés les uns contre les autres. Pour vous dire, vous le subissez, nous, on l'a choisi. Donc, même la pub joue sur ça.
Voilà, vous aimez le contact humain, la proximité, la sueur du tout un chacun. Découvrez la ligne 13 du métro, bien sûr. Sur BFM Paris, ils ont une super idée ce matin. Demandez à un de leurs journalistes de faire ce matin donc le tour du périph' en voiture avec une caméra qui filme, mais en se contraignant de ne rouler qu'à 50 pour voir.
Qui circule toujours sur le périphérique parisien ce matin. On a décidé de faire rouler notre chauffeur à 50 km/h. Alors là, il est dans les bouchons, donc forcément, la moyenne, sa moyenne de vitesse va s'abaisser un petit peu.
Du coup, ça tombe un peu à l'eau, cette histoire. Même si ça révèle la vraie morale de ce grand débat, résumé par Nicolas Canteloup ce matin.
De toute façon, c'est toujours bouché. Donc limité à 50, à 200, à 230 km/h, on s'en fout, ça change rien puisque c'est impossible de dépasser les 12 km/h.
Allez Mathieu, je vous laisse, je file, je contacte chez moi avant 22h.
Oui, partez maintenant. Partez maintenant, nous sommes à l'antenne tous les soirs de 17h à 20h pour vous accompagner dans cette galère. Merci Benjamin Muller. Il est 19h26.
Europe 1.
Très très loin du périphérique parisien. Pourquoi le Japon fascine-t-il autant l'Occident ? La discussion jusqu'à 20h avec mes invités et avec vous au 39-21. N'hésitez pas à prendre la parole.
Vos invités Mathieu Béliard sur Europe 1, le sociologue Jean-François Sabouret, l'ancien ambassadeur de France au Japon Philippe Faure et le directeur de la rédaction des Échos Nicolas Barré que vous retrouvez tous les matins à 7h15 sur Europe 1 pour l'édito Échos.
Trois connaisseurs du Japon, alors je vais m'incliner ce soir évidemment et vous permettre peut-être à vous qui nous écoutez d'apprendre des choses, à moins que vous ne participiez au 39-21, la question. Et d'ailleurs je vais la poser comme ça pour démarrer autour de la table, elle est un peu large, elle est un peu générale. Nicolas Barré, pourquoi le Japon fascine-t-il autant l'Occident ?
Je crois que le Japon fascine parce que c'est un pays très méconnu. Donc peu de gens y vont finalement, il y a assez peu de touristes français qui vont au Japon, donc c'est un pays à la fois très lointain, très méconnu, et puis en même temps familier quelque part, puisque vous avez toute cette culture japonaise qui est présente chez nous, cette culture populaire japonaise qui est présente chez nous dans les jeux vidéo, dans le, à travers les mangas, à travers tout un imaginaire qu'ils ont pu créer au fil des années, et qui aujourd'hui, on le voit d'ailleurs, ça fascine les ados. Ils rêvent tous d'aller au Japon. Quand vous allez à la Paris Games Week pour voir les jeux vidéo, il y a un agglutinement sur tout ce qui est produit par ce pays. Et donc, voilà, ça fascine par ce côté complètement aussi décalé de la société japonaise, et notamment des jeunes japonais.
Jean-François Sabouré.
Bien, écoutez, je rentre du Japon hier soir et j'ai emmené pendant 15 jours des enfants du 9-3 du lycée Paul-Éluard pour découvrir le Japon. Donc ils voulaient surtout entendre quelqu'un parler des mangas, voir le lieu à Akihabara où l'on vend des figurines de manga, des kilomètres de figurines de manga. Ils étaient passionnés par ça. Ils ont adoré vivre à la japonaise, parce qu'on n'avait pas un gros budget, manger des onigiri, vous savez, les boules de riz, etc. Ils ont adoré le Japon, je les ai emmenés au Mont Fuji. On a dormi au pied du Mont Fuji et on a levé les couleurs japonaises le matin pour voir. Ils n'avaient jamais fait ça. Ils m'ont demandé si on faisait ça en France aussi. Et puis, on est allé à Kyoto. Et ils ont aimé Kyoto. Et j'ai expliqué à un des élèves qui était là qu'il y avait un roman très beau de Mishima, qui était le pavillon d'or qui a brûlé, comme vous le savez, après la guerre. Et il m'a dit, mais alors pourquoi on y va si ça brûlait? Je dis, mais on a reconstruit depuis. Mais ils ont été absolument fascinés par le Japon, aimés. Et trois ont dit, moi je reviendrai. Je vais faire du japonais, je reviendrai.
Je vais faire du japonais.
Voilà. Donc sur 13 personnes qu'on a emmenées là-bas, si trois reviennent véritablement et font du japonais, ben, je n'ai pas perdu mes 15 jours.
Philippe Faure, pourquoi cette fascination pour le Japon?
Je pense que c'est parce qu'il n'y a pas plus différent de nous. On est à 10 000 km les uns des autres, on ne se ressemble pas physiquement, on n'a pas les mêmes réactions. Autant on peut être exubérant, autant ils sont discrets, autant on peut être désordonné, autant ils sont rangés. Je trouve que j'ai connu Fukushima, j'ai été des 48 heures après, c'était stupéfiant de voir les immeubles qui n'avaient pas été rasés, tout ce qui était exposé, les appareils de télévision, les téléphones, rien n'avait été volé, il y avait pas d'électricité, tout avait été détruit. Et bien à partir du troisième étage qui était au-dessus du raz-de-marée, rien n'était touché. Les gens sont...
pas de pillage, pas de... Rien, on pourrait imaginer n'importe où à travers le monde.
Tout ça nous surprend. Alors, beaucoup, mais en même temps, on a une sensibilité commune. Ça m'a toujours frappé de voir que, finalement, l'impressionnisme, le premier tableau, Impression Soleil Levant, c'est le drapeau japonais. Et quand vous allez dans la maison de Monet à Giverny, vous regardez sa salle à manger, son salon, il n'y a que des estampes japonaises. Il y a une fascination des uns pour les autres, que ce soit en matière
alors,
artistique.
Justement, je reprends votre premier propos et pour voilà, il y a ces questions-là que vous posez. Est-ce que nous sommes si différents des Japonais, nous Français, avant de parler des Occidentaux, peut-être d'une manière générale, Nicolas Barré?
Je pense qu'il y a quelque chose qui nous fascine vraiment, nous Français particulièrement par rapport aux Japonais, c'est qu'ils ont réussi peut-être mieux que nous, je ne sais pas, mais en tout cas, à allier la culture occidentale, la modernité avec la tradition. Et c'est quelque chose qui nous interpelle toujours, parce qu'on essaye aussi de voir comment est-ce qu'on peut être à la fois ouvert sur le monde et puis maintenir quand même notre identité. Il y a toujours ce décalage permanent. Et les Japonais ont réussi à leur façon, alors après on peut critiquer beaucoup de choses, mais à allier les deux et à avoir cette double facette. Et nous, quand on voit ça, c'est vrai qu'on est assez surpris de ce mélange à la fois de tradition, d'identité très forte, et puis qui va parfois même jusqu'à l'exclusion, hein, et puis également une manière de s'ouvrir au monde selon leurs propres termes.
Alors,
à leurs conditions.
Entre tradition et modernité, je me posais la question précisément, est-ce que ce n'est pas un écueil, une forme de banalité quand on parle du Japon? Non, c'est une réalité, vous dites, Nicolas Barré. Ils ont réussi cet équilibre,
oui.
Monsieur Sabouré.
Les Japonais sont les inventeurs de la les réinventeurs du passé, c'est-à-dire qu'ils savent réinventer leur passé perpétuellement. Là, ils mettent l'accent sur le tourisme étranger, essentiellement chinois, à tel point que les gens de Kyoto n'en peuvent plus parce qu'ils disent « je sors dans la rue pour acheter une bouteille de lait et là je vois un flot de Chinois qui passe ». Donc ça pose vraiment des problèmes. Pourtant, le Japon, qui est à 31 millions de visiteurs cette année, veut monter à 40 millions pour les Jeux Olympiques. Les gens se disent « on est envahi, on n'est plus chez nous ». Et donc, quand les Japonais font cela, c'est qu'ils veulent mettre l'accent sur le passé japonais, mais qu'ils réinventent. Ce n'est pas un passé, ce n'est pas Chambord, ce n'est pas Chenonceau, c'est des choses qui sont réinventées. Et c'est ça qui est formidable, ils savent se servir du passé pour faire de l'argent.
Nicolas Barret le disait à l'instant, Philippe Faure, c'est aussi parce qu'ils ont été capables peut-être se refermer sur leur identité. Parfois, c'est ça, c'est une forme de conservatisme des Japonais qu'il faudrait souligner, là.
Ah oui, je pense, oui. Oui, oui, ça, sûrement. Hein. Moi, ce qui me frappe, c'est le... c'est quand même... on est Japonais ou on ne l'est pas. Si on n'est pas japonais, on n'est pas japonais. On a beau y passer des années, le nombre, par exemple, de Français que j'ai vus qui avaient épousé des Japonaises et qui, quand ils ont terminé leur cycle d'activité, ont envie de rester sur place, c'est très difficile. C'est très, très difficile, physiquement, de rester sur place. Si on n'est pas japonais, quand on a fini son temps de séjour, de travail, il faut repartir. Je trouve qu'il y a
C'est très excluant.
Oui, hein? oui.
C'est un pays qui refuse l'intégration, oui, fondamentalement. Donc, effectivement, quand on est d'origine coréenne ou chinoise, et a fortiori de pays plus lointains, de toute façon, on ne deviendra jamais japonais. Il y a un refus absolu de l'intégration, de cette idée d'intégration que nous, on a en France ou en tout cas en Europe. Et c'est effectivement assez excluant.
Jean-François Sabouret.
Au Japon, c'est en France, c'est le roi du sol, comme vous le savez. Au Japon, c'est le roi du sang. Mais on est à l'aube d'une période tout à fait nouvelle, puisque les Japonais, les femmes japonaises ne veulent plus enfanter, on ne se marie plus. Il y a une dénatalité très importante au Japon. On est donc obligé d'importer maintenant 350 000 personnes.
Un quart de la population a plus de 65 ans.
C'est un début. Et je ne crois pas qu'au bout de 5 ans, ils ont des contrats très contraignants. Au bout de 5 ans, ils vont repartir. Ils vont rester. Donc ces gens-là vont faire souche et ils vont connaître l'immigration, donc s'ouvrir au monde. Ce n'est pas ce qu'ils ont voulu, mais c'est comme cela. De la même façon, les femmes ont toujours été brimées malgré leur beau diplôme. C'est le plafond de verre que l'on connaît. Mais de toute façon, comme elles sont apporté la preuve qu'elle réussissait aussi bien, sinon mieux que les hommes dans les grandes universités, à un moment, ce plafond de verre va sauter.
Mais c'est
et
vrai.
Puisque nous parlons justement de l'arrivée au pouvoir, de même un pouvoir symbolique de Naruhito, son héritier est une héritière. Donc, est-ce que dans 30 ans, on verra se monter sur le trône une impératrice? La réponse a été oui en 2001, non en 2006, puisque le frère cadet de l'empereur a eu un garçon, on a dit c'est terminé, on ne discute plus. Néanmoins, tous ceux qui avaient répondu oui, et surtout les femmes, ont dit excusez-nous, mais on va laisser Naruhito monter sur le trône, mais on va revenir pour parler de cette question.
Nicolas Barret.
Non, il y a eu un débat extrêmement vif, effectivement, sur cette question de l'immigration que le gouvernement Abe a tranché, hein, et au terme duquel la nouvelle loi qui a été adoptée pour effectivement permettre l'arrivée d'étrangers est extrêmement sévère, extrêmement restrictive. Et effectivement, il y a des contrats de 2 ans, de 5 ans, on ne peut pas rester davantage, il n'y a aucune option pour ensuite acquérir la nationalité, enfin, on ne peut pas faire venir sa famille, donc c'est extrêmement encadré. Ce sont des lois qu'on n'imaginerait même pas en Europe.
On ne dit pas la même chose. Enfin, moi, je suis de votre avis. Hein, je trouve Sabouré un peu plus optimiste. Vous voyez les choses évoluer un peu à l'occidental. Hein, mais moi, je pense qu'ils vont lutter de toutes leurs forces pour éviter, alors même que ça peut être leur intérêt, d'avoir de la jeunesse et d'avoir du sang neuf qui entre au Japon. Je pense qu'ils vont lutter de toutes leurs forces pour l'éviter. Hein.
19h37. Europe 1. Vous restez bien sur Europe 1 jusqu'à 20h, cet échange. Pourquoi le Japon nous fascine-t-il tant? On a des choses à apprendre ce soir. Et on va écouter Raphaël aussi, qui nous appelle du 5e arrondissement de Paris et qui nous dit qu'il est étudiant en langue et civilisation japonaise. On va le prendre au 39-21 dans un instant. A tout de suite.
Vos invités sur Europe 1, vos invités Mathieu Béliard, l'ancien ambassadeur de France au Japon, Philippe Faure, le sociologue Jean-François Sabouret, le directeur de la rédaction des Échos Nicolas Barret, que vous retrouvez tous les matins à 7h15 sur Europe 1 pour l'édito Écho, et vous au 39-21.
C'est Raphaël, vous. Nous allons accueillir Raphaël au 39-21. Il a 23 ans, il est parisien. Bonsoir Raphaël.
Bonsoir.
Mes invités comprennent, moi non. Moi non. Hein. Moi, vous savez, j'ai une culture pop assez limitée. J'ai mouchi mouchi, c'est ça, c'est bon, non? On dit allô.
Pas tout à fait.
Non, c'est pas ça. Mouchi mouchi. Voilà, je vais réviser, Raphaël. Mais je sens que vous serez mieux avec mes invités qu'avec moi, Raphaël. Allez-y.
Ça veut dire bonsoir, hein, tout simplement.
Bonsoir. Redites-le, Raphaël, pour moi.
Konbanwa.
Comment, pardon?
Konbanwa.
Konbanwa. Ça va la prononciation?
Ouais, bon, vous connaissez Konnichiwa. C'est Raphaël. À peu près le même esprit.
Raphaël, vous êtes un connaisseur, vous disiez, au standard de la culture japonaise. Vous étudiez la langue et la civilisation japonaise. Et vous vouliez nous parler de cette fascination qu'ont les Français pour le Japon, Raphaël.
Oui, alors, juste en introduction, promis, je serai pas long, je ferai pas aussi long que Emmanuel Macron la semaine dernière.
Non, s'il vous plaît, mais vous avez un peu de temps quand même.
Non, mais on parle de l'empereur aujourd'hui, et il me semble que le mot d'empereur n'est pas forcément le meilleur pour traduire Tenno. Et vous savez, on a utilisé le mot tsar pour désigner les monarques russes. Alors peut-être que pour désigner le monarque japonais, ce serait peut-être mieux d'utiliser le mot de Tenno, qui est le mot japonais. Bon, ça c'est
dit.
Quitte à aparté. Peut-être que M. Sabouret sera d'accord avec moi.
Non, je sais pas.
On va dire Mikado, si vous voulez. Ça nous ramène à notre jeunesse et un beau jeu.
Oui, et puis ça se mange aussi.
Raphaël, allez-y.
Oui, alors pour la fascination du Japon, vous savez, il y a un livre de Philippe Pelletier qui répondrait sans doute très très bien à ce que vous dites, mais il me semble qu'il y a aussi quelque chose qui a été dit il y a quelques instants, à savoir qu'en réalité, le Japon et la France sont assez ressemblants. Dans l'art, en fait, de magnifier ce qu'on a importé, si vous voulez. Le manga, j'entendais qu'il y avait une influence européenne. Bon, il y a quand même un fond au départ qui est la manga de Hokusai. Et d'une manière générale, les Japonais...
Ça veut dire quoi, Raphaël?
Alors, Hokusai, vous voyez le peintre japonais.
Oui, la grande vague. Oui. Voilà,
mais justement, pas seulement. C'est-à-dire qu'il avait fait toute une série de dessins, là, pour le coup, qu'on appelait la manga. Et c'est très exactement le dessin des mangas actuels. Et d'ailleurs, les mangas actuels viennent pour le style un petit peu de là. Donc, en ce qui concerne les mangas, la France, même Delamotte le disait chez François Claus, hein, on est le premier importateur de mangas au monde, hein, en France. Et il me semble quand même que la fascination du Japon, elle est très, très, très française, plus qu'elle n'est...
occidentale tout court. Bah tiens, je voulais justement poser la question. Est-ce que c'est un trait français, justement, que ce regard que nous avons sur le Japon, ou est-ce que c'est partagé ailleurs en Europe ou même aux États-Unis?
Non, je ne suis pas sûr. Quand vous voyez le succès, par exemple, de groupes comme Nintendo, le succès a été aussi important aux États-Unis qu'en Europe. Donc cette pop culture japonaise, c'est très largement exporté. Elle s'exporte aussi en Asie, hein, d'ailleurs, même en Corée. Ça pourrait paraître curieux, hein, puisque c'est quand même des pays dont l'histoire est faite de confrontations. Et néanmoins, il y a un appétit de la population coréenne pour cette culture populaire japonaise. Donc, ça va au-delà de la France, je pense.
Est-ce que c'est, justement, puisqu'on parle de la culture japonaise, de la pop culture japonaise qui s'exporte très bien, du jeu vidéo au manga, pour faire très court et très simple, c'est aussi la gastronomie
aussi,
aujourd'hui.
Le cinéma, les chansons.
Est-ce que c'est réellement simplement une exportation de la culture, ou est-ce que c'est un soft power géopolitique?
Géopolitique, Jean-François Sabouret, et économique aussi. Hein. Les Coréens qui copient beaucoup les Japonais avec succès, la K-pop
coréenne a beaucoup de succès et ils exportent en Chine exactement. Donc de toute façon, tous ces peuples-là, parce que imiter, ce n'est pas négatif pour les. On imite et on dépasse, hein, dans la culture japonaise et même asiatique en général. Donc les Japonais sont copiés par les Coréens, par les Taïwanais, par les gens de Chine populaire aussi. Donc tout ça, ça fait monter, mais l'économie, la raison économique est derrière tout cela.
La raison économique d'abord, Philippe Faure.
Et ils copient également, hein, ça va dans les deux sens. Hein, il n'y a pas que les autres qui copient sur le Japon. Hein.
Oui, oui.
La Corée, par exemple, va très bien en ce moment. Si vous regardez les téléviseurs, vous apercevez que tout ce qui était avant la génération japonaise, des téléviseurs, des téléphones, Sharp, tout ça, Sharp, Panasonic, tout ça, c'est parti, et c'est Samsung, enfin bon. Il y a une lutte phénoménale, hein, entre ces pays, et beaucoup de gens disent que la Corée est le nouveau Japon, hein, donc... j'aurais tendance à penser que c'est le cas.
Sur, hein. sur le soft power, c'est vraiment important. Quand on discute avec des diplomates, vous l'avez fait beaucoup plus que moi, monsieur l'ambassadeur, mais des diplomates du Gaimusho, du ministère des Affaires étrangères, c'est vraiment un élément clé depuis très longtemps du soft power japonais, d'avoir de pouvoir exporter cette culture-là, de la même manière que Hollywood a contribué, disons, à la puissance américaine. Et ça, c'est quelque chose qui les a toujours intéressés et fascinés. Et d'ailleurs, les Coréens aussi ont effectivement copié cette idée en disant voilà pourquoi est-ce que nous, les éléments de notre culture populaire ne seraient pas une façon de rayonner. Voilà.
On n'a pas parlé de gastronomie, mais c'est évident et c'est considérable les crédits que le gouvernement japonais injecte d'une manière directe ou indirecte via des associations, via des producteurs, via des exportateurs.
Exactement.
Pour faire connaître leurs produits. Le saké, enfin bon, entre autres, mais maintenant les whisky, et puis le repas, nous on a le repas gastronomique à la française, mais ils ont le repas japonais avec 5-6 variations, hein. On va sur les sushis, mais on peut aller également sur les brochettes, on peut aller avec des repas beaucoup plus compliqués du genre kaiseki. Tout ceci est très orchestré par le pouvoir public. Il se trouve que j'ai été président d'Atout France, c'est l'organe de promotion du tourisme français, jusqu'à la semaine dernière. Donc je vois ce que nous faisons et ce que nous avons pu mettre comme argent, et je vois ce que eux ils ont pu faire et mettre comme argent. C'est structuré et c'est volontaire. C'est un software qui s'est construit.
Jean-François Sabouret.
C'est ce qu'ils appellent la diplomatie culturelle. Mais juste une anecdote tout à fait amusante, moi qui suis originaire du centre de la France, dans un petit patelin de 200 personnes environ, est arrivé un Japonais qui a racheté une école, peut-être une école en déshérence, je ne sais pas. Il a retapé tout ça et les gens ont dit « mais qu'est-ce qu'il vient faire là ?» Et donc il a monté son restaurant et les gens ont dit « mais il n'aura personne ». Puis ils ont vu la carte, ils ont dit « mais personne ne peut s'offrir ça ». Et les Japonais ont commencé à arriver. Donc ils se sont dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et ce monsieur fait de la cuisine française, mais à la japonaise. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose au Japon, que ce soit japonais, français, c'est vraiment au gramme près. Et c'est quelque chose d'absolument délicieux. Ce qui fait que les Français ont commencé à vouloir venir, et souvent ils s'entendent dire, je suis désolé, nous sommes pris pour les 2 mois à venir. Qu'est-ce qu'il a inventé? Le petit patelin en question s'appelle Saint-Valentin. Et il a fait un restaurant qui a pour nom le 14 février. Il fait de la publicité au Japon, c'est réservé des mois à l'avance, et les gens viennent en quart pour aller dans son restaurant.
Dans le centre de la
France. Fort, ça, quand
c'est
même.
C'est très fort, c'est très réussi, 19h47. Vous êtes sur Europe 1, je remercie Raphaël qui était avec nous au 39-21, débat qui continue, discussion qui continue jusqu'à 20h. N'hésitez pas à intervenir au 39-21.
Vous écoutez Mathieu Béliard sur Europe 1 et vous invitez jusqu'à 20h le directeur de la rédaction des Échos, Nicolas Barret, que vous retrouvez tous les matins à 7h15 sur Europe 1 pour l'édito Écho, le sociologue Jean-François Sabouret et l'ancien ambassadeur de France au Japon, Philippe Faure.
D'un mot, parce que je sais qu'à la fin de l'émission, je n'aurai pas le temps, comme d'habitude, je serai légèrement en retard. Je voudrais remercier nos confrères de l'Obs qui paraît jeudi, le 2 mai, c'est jeudi, avec un dossier, La Folie Japon, qu'ils nous ont transmis avant la parution et ce qui m'a aidé à préparer cette émission. Je voulais vous poser une question autour de la table, Philippe Faure, pour démarrer peut-être. On parle de la fascination que nous avons, nous, occidentaux, pour les Japonais. Est-ce que la réciproque est vraie ?
Alors, je pense que oui, hein, pas sur tous les sujets. Mais sur certains sujets, certainement l'architecture, par exemple. Autant on voit beaucoup d'architectes japonais travailler en France, on en voit également des Français travailler au Japon. Là, ils ont un grand respect pour nos grands architectes. Je pense gastronomie. nos vins, nos champagnes, tous nos restaurants de grande qualité sont appréciés par les Japonais. Ça, c'est incontestable. Je pense que là où on est très bon, il n'y a aucun problème, on est très apprécié par les Japonais. Là où on est moins bon, où on est un peu périphérique, où on fait encore semblant, ils ont un œil assez acéré qui fait qu'ils s'y intéressent moins. J'aurais tendance à dire les choses comme ça.
Jean-François Sabouret ?
Oui, pour la cuisine, c'est évident. Vous trouverez dans mon ancien quartier, si j'ose dire à Tokyo, des petits restaurants qui ont pour nom le coupe-chou pour manger pour 2000 yens, mais à quelques centaines de mètres de là, dans le grand hôtel Niotani, 1500 chambres, il y a le restaurant La Tour d'Argent. Et le directeur que j'ai vu la semaine dernière me dit ils augmentent leur chiffre d'affaires d'année en année et les gens viennent déjeuner. Alors qu'après l'éclatement de la bulle économique, on aurait pu penser que ça allait plutôt péricliter. Non, ça marche toujours. Donc on aime la qualité chez les Japonais. Mais quand ils font quelque chose, ils veulent apprendre. Il y en a qui font de la peinture, il y en a qui font de la sculpture, l'architecture. On est davantage dans l'appropriation intelligente des choses. Alors que les Français, je suis désolé, sont souvent devant les choses. On est content et on passe à autre chose.
Nicolas Barret.
En un mot, je pense que la France pour le Japon, c'est l'autre pays de la perfection. D'une certaine façon, parce que c'est un pays où on a...
Ça fait du bien de l'entendre aussi.
On a poussé au summum l'art de vivre. Et donc, dans cette mesure-là, on est un petit peu le miroir du Japon pour beaucoup de choses. Et donc, il y a une fascination aussi pour cette culture, la nôtre, pour sa profondeur, pour sa littérature également. Albert Camus est très traduit au Japon. C'est l'un des auteurs les plus traduits au Japon. Donc, on a cette image de perfection. Et évidemment, le succès de certains grands groupes français, on a parlé du luxe, par exemple, au Japon, en témoigne.
Oui, le luxe, la gastronomie, c'est vrai. Et puis, on a aussi la venue de Japonais. Alors là, pour le coup, c'est du tourisme qui viennent en France avec beaucoup de points d'intérêt, évidemment, mais ça, comme beaucoup d'autres à travers le monde, ou à moins que ce ne soit particulier pour les Japonais, je sais pas. Non, ça ressemble à...
Les Japonais, les Chinois, évidemment, aujourd'hui prennent le relais sur cet appétit pour cette partie de la culture française, oui.
Alors, vous avez tous les trois, vous avez vécu au Japon. Jean-François Sabouret, 24 ans, je vous ai posé la question d'entrer en studio. Nicolas Barret, 6 ans, je crois. Philippe Faure, 4 ans. Est-ce que vous êtes parti, Jean-François Sabouret en premier, parce que 24 ans, c'est une belle période.
Je suis pas revenu, en fait.
C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que vous êtes parti parce que vous aviez fait le tour, parce que vous vouliez passer à autre chose, ou est-ce que c'est compliqué aussi pour un occidental de vivre là-bas?
Non, pour des raisons familiales, je suis rentré.
D'accord.
Je suis fils unique, donc je voulais que mes parents me voient et voient mes enfants avant de passer de l'autre côté du miroir.
Donc mais vous étiez là-bas encore sinon, jusqu'à hier.
Je serai au Japon tout en faisant les remarques qui ont été faites tout à l'heure, mais j'aime bien être étranger quelque part. Et donc le Japon, on est tout à fait satisfait avec cela. Mais quelque part, dans le quartier des Français de Tokyo, Kagurazaka, que monsieur l'ambassadeur connaît bien, on y est heureux, on y est tranquille, etc. Même s'ils ont Disneylandisé, enfin c'était un peu Disneyland le quartier français, avec des restaurants français, des restaurants s'appellent La Bretagne pour manger des crêpes que les femmes se sont appropriées, etc. Donc tout ça, ça devient un peu Disneyland. C'est dommage, ça a changé, mais ça marche. La machine économique marche très bien.
Nicolas Barret.
D'une certaine façon, on est marqué à vie par le Japon, et en même temps, on sait très bien qu'on n'y sera jamais intégré, et donc effectivement qu'on sera toujours étranger dans ce pays. Ce qui est évidemment l'opposé des États-Unis, par exemple, hein, où là,
vous arrivez,
l'intégration
vous intégrez,
est quelque chose de naturel.
Philippe Faure, même si j'imagine que vous avez vécu dans des conditions un peu différentes en tant qu'ambassadeur de France au Japon.
Oui, moi j'ai été très content des 4 années que j'ai passées au Japon. J'y reviens de temps en temps, mais heureux du séjour. Et en même temps, je vois, j'ai acheté une maison au Mexique. Vous voyez, c'est autre chose. Et mes pas vont plutôt vers le Mexique que vers le Japon.
Ça, c'est la vie d'ambassadeur, c'est autre chose. Merci beaucoup à vous trois, à Philippe Faure, ancien ambassadeur de France au Japon, d'être venu dans le studio ce soir, sociologue qui a vécu 24 ans au Japon, qui n'est jamais vraiment parti, si j'ai bien compris, Jean-François Sabouret. Merci beaucoup. Et Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Échos, que l'on retrouve tous les matins à 7h15 sur Europe 1 pour l'édito Échos demain matin, 7h15.
Exactement.
Nicolas Barret, belle soirée à vous. Il est est 19h55 et nous retrouvons Karima Charny pour la musique. Bonsoir Karima.
Bonsoir Mathieu.
Qu'est-ce qu'on écoute ce soir ?
Est-ce que vous le savez, aujourd'hui c'est la journée internationale du jazz, alors nous allons écouter Monsieur le Seul l'Unique. À votre avis ?
Non. Miles Davis ?
Non, Ray Charles. Et non, il y avait deux choix. C'était Miles Davis ou Ray Charles.
Il y en a quelques-uns, mais c'est un très bon choix, Ray Charles.
Voilà, on va célébrer ça en musique. Je vais également vous faire découvrir le nouveau single en duo de Vita et de Slimane. Ils ont annoncé un album ensemble. On va écouter tout ça, on va se détendre et passer un bon moment tous ensemble.
Eh bien, c'est une très belle soirée en musique qui est prévue avec Karima Charny. Demain, je vous trouverai un petit quiz. Mais Richard, c'est très bien,
avec
jusqu'à 22h en musique. Juste d'un mot, dans quelques toutes petites minutes, Isabelle Millet pour l'information. Et nous reviendrons sur la mort de l'actrice Anémone. On l'a appris en fin d'après-midi. Pour ma part, je vous retrouve demain. Pas de jour férié hein, pour votre grand journal du soir. Nous serons en direct à partir de 17h. À demain, Ambline.
À demain, 17h. Donc, merci Mathieu Béliard. Dans un instant, Isabelle Millet pour l'information sur Europe 1.